With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ces 20 Français sont venus vivre ici un rêve. Un rêve d'aventure et de dépassement de soi.
10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais attention, les défis sont de taille.
Koh-Lanta, le jeu télévisé phare de TF1 lancé en 2001, fête ses 20 ans. Koh-Lanta, deux mots synonymes d'île paradisiaque, de Hunger Games sans issue fatale, de pêche, d'estomac vide, de jeux aux stratégies tarabiscotées, de coups du sort, de chance, de traîtrise, de poteau. Depuis ses débuts, 20 minutes a fait le choix de suivre, de rapporter ce qui se passait dans le jeu et autour du jeu. En 20 ans, l'émission d'aventure a beaucoup grandi et aujourd'hui plusieurs millions de fidèles suivent les diffusions télé, que ce soit en direct ou en replay. Comment un média généraliste peut traiter cette émission ? Comment écrire des articles, des messages sur les réseaux sociaux de 20 minutes sans spoiler les lecteurs ? Comment parler des questions de société avec ce jeu ? Est-ce que les journalistes qui travaillent avec TF1 savent le nom du ou de la gagnante ? Benjamin Chapon, chef du service culture de 20 minutes, va nous répondre dans ce podcast Minute Papillon. Je suis Anne-Laetitia Béraud. Benjamin, tout d'abord, pourquoi Koh-Lanta est important pour 20 minutes ?
Il y a des raisons objectives. C'est un programme très très fort en audience, très très fort par sa longévité, très très fort par l'attachement que les téléspectateurs et téléspectatrices ont avec ce jeu. C'est une émission dont les rituels maintenant sont bien installés. Il y a peu de changements et ça, c'est la marque de programme très fort. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sans cesse changer les règles, d'en rajouter. Le principe même de l'émission est suffisamment fort pour durer. Et donc, c'est ça qui fait que 20 minutes s'attache à suivre chaque année, parfois plusieurs fois par année, les saisons de Koh-Lanta. Parce que c'est une émission qui est l'émission de jeu incontournable aujourd'hui en France. À ses débuts, Koh-Lanta était conçu comme un jeu de télé-réalité. Dans un contexte aventure, dans un contexte plage, mais c'était vraiment un jeu où on observait des gens fermés, comme Love Story, mais sur la plage, et avec des épreuves de survie. Et la particularité de 20 minutes à cette époque-là, c'est qu'on suivait l'actualité de la télé-réalité sans a priori, de manière sérieuse. On essayait de comprendre ce que ce phénomène télévisuel racontait de la société. On n'était pas nombreux dans les médias généralistes à le faire. Donc, on a traité l'émergence de cette émission de manière parfaitement sérieuse. Petit à petit, Koh-Lanta est devenu un rendez-vous particulièrement incontournable de TF1, à mesure que les audiences montaient, que les codes de l'émission se diffusaient dans la société, avec évidemment l'épreuve des poteaux, qui est devenue presque une expression courante, même pour les gens qui n'ont jamais vu Koh-Lanta, tout le monde voit ce que c'est. Et donc, quand ce jeu s'est installé de manière aussi forte dans la société, nous-mêmes, on a un peu monté en gamme et on a suivi encore plus fort le jeu qui a lui-même évolué, qui est devenu vraiment un jeu d'aventure et qui ressemble un petit peu à une compétition sportive, alors scénarisée, peut-être plus scénarisée qu'un match de foot. Mais malgré tout, c'est aussi une compétition sportive. Donc, on a un peu calqué notre méthode de suivi sur les méthodes de la presse sportive et notamment de notre service des sports à 20 minutes.
Qui aura tous les talents ?
Allez, on
va jouer ! Encore !
La particularité de notre traitement, c'est moins particulier aujourd'hui parce que nos concurrents nous ont un peu imité, mais ça a été de suivre en live les prime time de Koh-Lanta. Donc tous les vendredis soirs, on suivait à la minute et on commentait à la minute. À l'époque, on appelait ça des lives comme à la maison. Ça avait été inventé par le service des sports de 20 minutes. On l'avait appliqué à quelques émissions de télé. À l'époque, c'était un journaliste qui s'appelle Corentin Chauvel qui était en charge de ces lives. Et donc, il suivait l'événement en direct et il les commentait et il faisait un débrief. Et à côté de ça, assez vite, on a aussi mis en place des interviews des candidats, comme on pourrait interviewer, comme on pourrait débriefer un match avec Kylian Mbappé. On débriefait le match avec Mundir et autres pour revenir sur les faits de jeu les plus intéressants. Maintenant, il y a une sorte de tradition qui est d'interviewer le candidat qui part, puisque le code télévisuel de Koh-Lanta et le rituel est très marqué. Il y a chaque semaine, en gros, un aventurier qui part. Donc on débriefe l'aventure avec cet aventurier au lendemain de son élimination.
Je sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps.
Ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont passés sur ce format-là et chacun y est allé un petit peu avec sa personnalité. Ce qui est amusant, c'est que j'ai peu de souvenirs de journalistes qui n'aimaient pas cette émission. Au bout de 20 ans, on peut effectivement se lasser du programme, mais il y a forcément un moment de sa carrière de journaliste à 20 minutes où on adhère complètement. Je me rappelle d'interviews assez mythiques d'Alice Coffin, qui était journaliste média à 20 minutes pendant plusieurs années et qui était en charge, notamment du suivi de Koh-Lanta, et qui faisait des interviews récapitulatives de l'aventure de certains candidats. Et oui, l'interview de Mundir par Alice Coffin, c'est un bon souvenir pour moi, qui assistait aux coulisses de l'interview, parce que c'était un personnage en couleur, parce que c'était une journaliste qui aimait passionnément ce programme et qui aimait en décrypter les dessous. Donc c'était un bon moment.
À la fin, il n'en restera qu'un.
Ce qui est amusant, je trouve, c'est dans le traitement journalistique, c'est qu'on s'emporte avec Koh-Lanta quand on est journaliste. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas être objectif, on est évidemment très subjectif quand on écrit sur Koh-Lanta, parce que nous aussi, on a nos candidates et nos candidats préférés. Nous aussi, on se met en colère face à certains événements, face à certaines injustices. Il y a des choses qui nous plaisent ou nous plaisent moins dans le jeu. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on écrit de bons articles. C'est parce qu'on se prend au jeu, comme les gens qui nous lisent se sont pris au jeu en voyant leur programme. Et c'est pour ça que c'est proche d'un article, d'un commentaire de match de foot, parce qu'on est partie prenante. Après, il ne s'agit pas de s'acharner sur certains candidats, comme les internautes peuvent le faire, parfois de façon un peu méchante. Mais par exemple, l'amour inconditionnel que portent les téléspectateurs à un personnage comme Claude, on prend notre part. Nous aussi, on surjoue un peu l'attachement à des candidats comme ça, parce que ça fait des meilleurs articles, ça fait des articles plus vivants, plus incarnés. On accompagne aussi les lecteurs dans cette dimension-là du jeu, quoi. Après, ça ne nous empêche pas de traiter aussi Koh-Lanta comme ce que c'est-à-dire un programme qui rapporte énormément d'argent, qui est énormément regardé et qui donc a une influence sur la société. Cette saison, on a parlé du sexisme, on a parlé du comportement des candidates et des candidats, des différences de genre, on a parlé de la place d'un candidat homosexuel et de la répercussion que sa présence dans le jeu peut avoir dans la perception qu'on a des personnes homosexuelles en France. On ne s'interdit pas, au contraire, d'analyser Koh-Lanta comme ce que cette émission est, c'est-à-dire un phénomène de société qui a des répercussions énormes aujourd'hui.
En 20 ans, la consommation des médias, la consommation de ce jeu télévisé a aussi évolué. Par exemple, avec l'évolution et le développement des replays, de rattraper le jeu après la diffusion télé. Comment, à 20 minutes, on s'adapte à cette évolution majeure? En fait, tout le public n'a pas la même information au même moment.
Il y a autour de Koh-Lanta un gros problème, quelque chose qu'il faut solutionner, c'est la question de la temporalité. Koh-Lanta est une émission qui est enregistrée plusieurs mois avant sa diffusion. La conséquence de ça, c'est que les candidats, quand on les a au téléphone, un ou deux jours avant la diffusion de l'épisode dont on va parler, ça fait plusieurs mois qu'ils sont revenus chez eux. Donc nous, ça nous demande un travail journalistique particulier, il faut qu'on réactive leurs souvenirs, il faut qu'on fasse attention à ne les faire parler que d'événements qui sont déjà déroulés devant les yeux des téléspectateurs, pour ne pas spoiler. Et comme ce ne sont pas des professionnels des médias, ça nous demande un travail particulier pour que l'interview soit enfin intéressante et surtout qu'elle ne spoile pas la suite de l'aventure. Et on en vient à la question majeure quand on parle de Koh-Lanta et de réception de nos articles, c'est la question du spoil, du divulgachage. On a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui parfois nous reprochent de leur gâcher le plaisir parce que on a publié l'interview du candidat ou de la candidate éliminée et que, incidemment, sur notre site, ils sont tombés sur cette interview et sans même la lire, hein, juste en voyant le titre. Longtemps, on s'est retranché derrière le fait que c'était comme un match. Les soirs de match, le service des sports de 20 minutes et les services des sports de toute la presse ne s'empêchent pas de donner le résultat sous prétexte que certaines personnes vont voir le match le lendemain. Ce qui a changé ces dernières années, c'est que, comme tu disais, la part de téléspectatrices et téléspectateurs qui regardent l'émission en replay a énormément augmenté. Et donc, on a été obligé de prendre en compte cela. Et ce qu'on fait, c'est qu'on anonymise nos articles. C'est-à-dire que notre article, quand tu tombes dessus sur la page de 20 minutes ou sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, tu vas avoir une citation mais pas le nom ni la photo de la candidate ou du candidat concerné. On a mis ça en place ces derniers mois, notamment après le premier confinement, parce que c'est pendant le premier confinement que, selon moi, les habitudes ont vraiment évolué sur la consommation de cette émission.
Alors, qui sera le meilleur aventurier ?
Quand on est journaliste et qu'on travaille sur ce format, est-ce qu'on a des informations exclusives ? Est-ce qu'on sait qui va gagner la prochaine édition ?
Non, on ne sait pas. On a la chance de voir les épisodes quelques jours avant la diffusion. Quand on a diffusé le vendredi, on reçoit le lien, je ne vais pas dire de bêtises, je crois le mardi ou le mercredi, pour pouvoir organiser des interviews dans la journée du jeudi, en gros. Pour ce qui est de la finale, par exemple, on l'apprend comme tout le monde, en direct, le jour même. On n'est absolument pas prévenu de qui gagne.
Merci à Benjamin Chapon, chef du service culture de 20 minutes, pour cet échange. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne avec sa petite vignette bleu ciel et son point d'exclamation. N'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi alerté des nouvelles diffusions. Pour nous écrire, une seule adresse, audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.